de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer sur les versets 1 à 5 de la Sainte Sourate 4. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ
بِسْمِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ سلام هي حتى مطلع الفجر ورق الله العلي العظيم.
Oui, nous avons fait descendre ceci, la nuit de la détermination. Et qui te dira ce qu'est la nuit de la détermination? La nuit de la détermination est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par permission de leur Seigneur. Avec chaque commandement, une paix. Cela jusqu'à l'apparition de l'aube.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes dimanche 19 Farvardine, 1403 du calendrier iranien, 7 avril 2024. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Le régime sioniste est sur le point de s'effondrer, a déclaré le chef d'état-major des forces armées iraniennes. Le leader de la révolution islamique a amnistié 2127 prisonniers à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Le martyr de deux policiers iraniens lors d'une attaque terroriste dans le sud-est du pays. Aucune ambassade israélienne n'est plus en sécurité, a déclaré un ancien commandant du corps des gardiens de la révolution islamique. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. À l'occasion de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni de Ramadan, et à la demande du chef du pouvoir judiciaire iranien, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, leader de la révolution islamique, a donné son accord d'amnistier, de réduire et de commuter la peine de plus de 2000 prisonniers. Dans une lettre adressée au leader de la révolution islamique, le Hujjatul Islam Mohseni Ejei, chef du pouvoir judiciaire iranien, lui avait demandé d'amnistier, de réduire et de commuter la peine de 2127 prisonniers condamnés par les tribunaux publics et ceux de la Révolution, ainsi que par les tribunaux de l'organisation judiciaire des forces armées. Au moins deux policiers iraniens sont tombés en martyr lors d'une attaque terroriste dans la province du Sistan et Baloutchistan, dans le sud-est du pays, a indiqué le centre de commandement de la police de la province dans un communiqué publié samedi 6 avril. Les terroristes ont attaqué une unité de police dans le district de Kourin, dans la ville de Zahedan, capitale de la province, tuant en martyr deux policiers et en blessant un autre. Au cours des affrontements, un terroriste a été tué par balle, tandis que des efforts se poursuivent pour arrêter d'autres assaillants armés, a ajouté le communiqué. L'attentat a eu lieu deux jours après que le groupe terroriste Jaïch al-Adl a mené des attaques simultanées dans les villes de Rask et de Chabahar contre le quartier général du corps des gardiens de la révolution islamique, un commissariat de police et un poste de la police maritime. Aucune des ambassades du régime israélien n'est plus sûre, a prévenu un haut conseiller militaire du leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei. Lors d'un discours, le général Yahya Rahim Safavi a déclaré que le leader de la révolution islamique a promis de donner une gifle au régime israélien de telle sorte que celui-ci regretterait d'avoir attaqué le consulat d'Iran en Syrie, ajoutant que le front de résistance était tout à fait prêt à tenir cette promesse. « Nous devons attendre et voir ce qui se passera », a déclaré le général Rahim Safavi. « Aucune des ambassades du régime sioniste n'est plus sûre et par conséquent, il a jusqu'à présent fermé 28 de ses ambassades par peur », a-t-il ajouté. Le général Rahim Safavi, ancien commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, a en outre déclaré que les colons israéliens vivaient dans la peur en raison de l'attaque imprudente contre le consulat d'Iran. Lundi dernier, des avions militaires israéliens ont bombardé le bâtiment consulaire de l'ambassade d'Iran à Damas, la capitale syrienne. leur aide aérien a tué 13 personnes, dont 7 membres du corps des gardiens de la révolution islamique qui effectuait une mission consultative en Syrie. L'armée israélienne a mené ce dimanche 7 avril des raids aériens sur la vallée de la Beka, à l'est du Liban, le long de la frontière avec la Syrie, après que le Hezbollah a abattu un drone Hermès 900 la veille. Une source proche du mouvement de la résistance islamique du Liban, Hezbollah a indiqué à l'AFP que les frappes israéliennes avaient visé ce dimanche à l'aube le village de Djonta et la ville de Safri. Parallèlement, deux sources de sécurité libanaises ont déclaré à Reuters que les attaques israéliennes avaient visé un camp d'entraînement du Hezbollah à Djonta. Les attaques aériennes n'ont pas eu de victimes, selon une source de la défense civile libanaise. Entre-temps, l'armée israélienne a prétendu avoir ciblé un complexe et 3 infrastructures supplémentaires appartenant à l'unité de défense aérienne du mouvement libanais Hezbollah. Et enfin, 2 navires ont été pris pour cible au large des côtes du Yémen, a annoncé ce dimanche la société de sécurité britannique Embraer, portant à 3 le nombre d'attaques signalées au large du Yémen en moins de 24 heures, nous le confirme l'agence France Presse le 7 avril. Aucune de ces attaques n'a été revendiquée dans l'immédiat, mais elles interviennent dans un contexte d'attaques croissantes menées par les combattants des forces armées du Yémen, une des multitudes de ramifications de l'axe de la résistance contre les navires au large du Yémen qui réagissent en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza, ravagés par une guerre meurtrière et génocidaire lancée par le régime fantoche sioniste contre les peuples palestiniens sous prétexte de combattre le Hamas, et ceci depuis bientôt 7 mois. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Selon le chef d'état-major des forces armées iraniennes, les États-Unis et les autres pays arrogants doivent savoir que le régime sioniste est sur le point de s'effondrer. Lors de la cérémonie de funérailles du haut commandant de la force ROTS, Mohammad Reza Zahedi, à Isfahan, le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Bagheri, a rappelé que le martyr Zahedi a sacrifié sa vie pour la révolution islamique. Rappelant que le peuple iranien a créé cette année une journée de Rots inédite, le chef d'état-major des forces armées iraniennes a martelé « Que sachent les États-Unis et d'autres pays arrogants qu'Israël est sur le point de s'effondrer ». Le général Bagheri a souligné que les sionistes avaient usurpé la première Qibla des musulmans et établi un régime usurpateur. S'il n'y avait pas eu de révolution islamique, un plan mondial visant à changer le monde musulman aurait été établi avec la collusion d'Israël. Pour autant, le temps du déclin d'Israël est arrivé avec l'émergence de la révolution islamique, a-t-il ajouté. Le chef de l'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran a déclaré que l'une des stratégies de la République islamique d'Iran était une confrontation permanente avec le régime usurpateur sioniste. À la suite de la création de la force Quds, du corps des gardiens de la révolution islamique, sur ordre du leader de la révolution islamique, le front de la résistance a gagné en puissance et des courants comme le Hezbollah, le Hamas et les autres étaient entrés en jeu et avaient promu leur puissance pendant ces 30 dernières années. L'opération Tempête d'Al-Aqsa a illustré une petite partie de la force du front de la résistance. 1000 combattants palestiniens y ont pris part et ils ont infligé une défaite cuisante à l'ennemi sioniste, a déclaré le général Barredi. Les combattants du front de la résistance ont fait subir à l'ennemi le plus grand dégât avec un maximum de pertes. Le régime sioniste cherché a poursuivi le général Barredi à créer une terre allant du Nil à l'Euphrate, mais il est aujourd'hui retranché dans le territoire occupé, il s'est empêtré dans le bourbier de Gaza et n'a aucun moyen d'en sortir. Voilà pourquoi il a recours au meurtre de femmes et d'enfants, au bombardement d'hôpitaux et d'autres crimes. Israël n'a atteint aucun de ses objectifs après 6 mois de bombardement de Gaza. L'idée du djihad est toujours vivante parmi les combattants du front de la résistance et la défaite d'Israël est bien sûr certaine, a-t-il ajouté. La situation dans les territoires occupés est chaotique. Les soldats israéliens s'enfuient du service militaire. Une grande partie des jeunes israéliens ont quitté la Palestine occupée. L'économie du régime de Tel Aviv est défaillante et malgré le soutien éhonté des États-Unis et de l'Europe, le cas d'Israël a été porté devant la Cour de la Haye et une déclaration a été publiée aux Nations Unies contre les sionistes, a déclaré le général Barredi, chef de l'état-major des forces armées iraniennes. Le plan de l'arrogance mondiale visant à détruire le monde musulman dans la terre sainte palestinienne et à prendre le contrôle de cette région a été voué à l'échec, et cela grâce aux efforts des combattants du front de la résistance, de la force Quds, ainsi que du peuple palestinien et du peuple libanais et du monde musulman. Aujourd'hui, la page est tournée et le processus de déclin d'Israël a commencé. Les sionistes sont au bord de l'abîme et les opérations qu'ils mènent s'effectuent par folie et désespoir. L'attaque terroriste israélienne contre l'ambassade d'Iran à Damas est d'une certaine façon un suicide israélien en Syrie. Le général Barredi, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a ajouté « Le régime sioniste poursuivait constamment le martyr Zahedi, mais ce courageux commandant du corps des gardiens de la révolution islamique n'a pas quitté le champ de bataille. La mort en martyr du général de division Zahedi et de ses compagnons donnera un coup d'accélérateur au processus de l'anéantissement d'Israël. Selon la promesse de Dieu, la victoire reviendra au front de la résistance. »
Madame, Monsieur, bonjour, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 6 avril 2024. Israël bat le record en termes de meurtre de travailleurs humanitaires. Le nombre de travailleurs humanitaires tués par Israël dans la bande de Gaza au cours de 6 derniers mois est supérieur, selon les chiffres officiels, au nombre total de travailleurs humanitaires morts au cours des 30 dernières années dans d'autres parties du monde. Bilan catastrophique et choquant. Les travailleurs humanitaires de l'ONG d'aide alimentaire connue sous le nom de World Central Kitchen sont les dernières victimes des attaques israéliennes du genre. On va s'intéresser à ce sujet avec nos deux experts tout de suite après un petit reportage. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite après.
Au cours en termes de meurtres de travailleurs humanitaires. Le nombre de travailleurs humanitaires tués par Israël dans la bande de Gaza au cours des 6 derniers mois est supérieur au nombre total de travailleurs humanitaires morts au cours des 30 dernières années dans d'autres parties du monde. Un rapport de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires montre qu'Israël a tué plus de travailleurs humanitaires dans la bande de Gaza que de travailleurs humanitaires tués ailleurs dans le monde au cours des 30 dernières années. Selon ce rapport, au moins 203 travailleurs humanitaires ont été tués dans les attaques israéliennes depuis le 7 octobre 2023 et les attaques incessantes d'Israël contre les Palestiniens, une situation grave que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifiée d'inadmissible et s'est déclaré profondément préoccupé. Les travailleurs humanitaires de l'ONG d'aide alimentaire, connue sous le nom de World Central Kitchen, sont les dernières victimes des attaques israéliennes du genre. 7 d'entre eux ont été tués lundi. Une frappe du régime sioniste sur la bande de Gaza a suscité les réactions virulentes de leurs respectifs pays, malgré leur soutien à Israël. Ces attaques et le meurtre de travailleurs humanitaires réduisent la portée de l'aide apportée à la population de Gaza, assiégée et bombardée. Suite à la récente attaque, les Nations Unies ont annoncé qu'elles suspendraient les mouvements nocturnes de leur personnel pendant au moins 48 heures. L'ONG caritative a également été contraint de mettre un coup d'arrêt à ses opérations et ses livraisons d'aide alimentaire vitale à Gaza.
Voilà pour le récit du drame. Cette humanitaire représentante de divers pays du monde, occidentaux, des pays occidentaux, ont été tués par Israël délibérément. Alors, j'ai le grand plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français, analyste politique. Ravi de vous retrouver, Monsieur Vernochet. Bienvenue.
Oui, bonjour à toutes et à tous en ces heures graves et tristes.
Merci beaucoup. J'ai immense plaisir aussi de recevoir pour ce débat Maître Arnaud Doblet, juriste international, analyste politique. Bienvenue, Maître Doblet.
Oui, bonjour à vous, spectateurs. Monsieur Vernochet.
Voilà, on va tout de suite commencer le débat par vous, Monsieur Vernochet. Il s'agit d'un difficile acheminement de l'aide humanitaire. Pourtant, l'acheminement des armes est très fluide et très facile. Je vous laisse réagir.
Écoutez, vous avez dit que de nombreux humanitaires avaient été, il faut dire le mot, il n'est pas trop fort, assassinés dans la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, nous avons un décompte de 196 humanitaires, dont 175 agents des Nations Unies. Alors on va dire que ce n'était pas des Américains, c'était des Palestiniens qui œuvraient pour l'agence des Nations Unies. Toujours est-il que les véhicules qui ont été frappés, ils étaient 3, donc 7 morts, je le répète, avaient des signes distinctifs inscrits sur le toit, que leur itinéraire avait été communiqué à l'armée israélienne, également les coordonnées GPS, absolument tout, avec leur itinéraire et où ils se destinaient, l'armée israélienne a parlé de frappes non intentionnelles, enfin,
Monsieur Vernochet, apparemment, il y a un souci du son. Je vous entends plus.
Ah, c'est
vous
gênant.
M'entendez?
Oui, moi, je vous entends.
Voilà. Veuillez reprendre, s'il vous plaît.
À quel moment je
bon,
peux reprendre?
Quelques mots avant.
Oui, alors, je disais que l'itinéraire était connu, la destination des véhicules était connue, les distinctifs étaient inscrits sur le toit des véhicules humanitaires, et donc, il est très difficile de parler de frappe non intentionnelle. C'est se moquer du monde. Alors, l'armée israélienne n'a pas nié, n'a pas dénié, et a annoncé qu'elle avait pris des sanctions contre deux ou trois responsables. Mais tout ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que ces sanctions? Les gens ont mis de façon délibérée, qui ont mis des meurtres, et des meurtres qui faisaient spécifiquement.
Monsieur Vernochet, bon, le problème persiste toujours. À vous, Maître Doblet, s'il vous plaît. Alors, le Conseil de sécurité fait le point sur la situation humanitaire à Gaza suite au meurtre de sept travailleurs de cette ONG alimentaire. Alors, ces sept victimes rejoignent dans l'au-delà plus de 220 travailleurs humanitaires, dont 179, comme vient de dire Monsieur Vernochet, membre du personnel de l'ONU. Alors, c'est le plus grand nombre de victimes humanitaires des temps modernes, et il paraît que cela va de pire en pire. Pourquoi on ne peut pas arrêter cette machine de massacre, et pourquoi le monde, l'ONU, alors, sont incapables et impuissantes face à cette machine de tuerie?
Écoutez, il arrête. Je pense malheureusement que la situation est s'entend présenter un régime fini. On l'a vu récemment encore avec le bombardement de l'aéroport. La première fois, en l'occurrence, plus un aéroport de mon salaire. Et donc, le primataire a su lui-même reculer tout le jour. On a vu la manière dont l'arrêt a été imposé par le régime de Tel Aviv, selon lequel l'agence PNR selon des faits imputés à cette agence, leur centaine impliquée pour l'État. Ça a amené à la suspension du financement de cette agence qui pourtant fait un travail essentiel à Gaza, presque immédiat par les pays occidentaux. Et donc, si vous voulez, c'est toutes ces séries de décisions qui créent, si je puis dire, un peu qui conditionnent le sentiment d'impunité. Rappelons, je compléterai ce que M. Vernochet évoquait concernant les sept travailleurs humanitaires, c'est qu'effectivement, ils avaient transmis leurs données GPS aux Israéliens, leur indiquant effectivement où ils se rendaient et dans quel véhicule. Et malgré tout, ils n'ont pas fait l'objet d'un unique, mais de trois bombardements. C'est-à-dire qu'en fait, le premier bombardement a incapacité le véhicule, ils ont changé de véhicule, recontacté les Israéliens, pour leur dire c'est une erreur, si je puis dire, nous sommes maintenant dans tel véhicule, rebelote, ils ont refait la même chose, et une troisième fois après, jusqu'à ce que tous ces gens-là soient morts. Alors effectivement, on a appris qu'après maintes pressions sur Tel Aviv, on a appris que des sanctions avaient été prises à l'encontre de l'officier en charge de cette opération, dont il s'avère qu'il fait partie du mouvement des colons. Donc c'est un dur de dur. On sait que les colons se mobilisent depuis maintenant plusieurs semaines pour empêcher les cargaisons humanitaires de rentrer dans la bande de Gaza au travers du passage frontal. Donc on peut parfaitement voir que tout cela participe de ce qui a été démontré mis en avant par le rapport fourni par Francesca Albanese, hein, le rapporteur spécial sur la situation en Palestine, à savoir qu'il s'agit, parmi tant d'autres, d'éléments qui constituent effectivement une tentative systématique d'élimination d'un peuple dans son entièreté ou en partie en tout cas. Ça fait partie, là, sur ces trois éléments sur les cinq critères qui constituent le crime de génocide. Et on a pu voir que vraiment, il a fallu une pression énorme, même venant de Washington. Genre là, vous êtes à 4 points. On a vu que un des ressortissants assassinés était polonais. L'ambassadeur d'Israël à Varsovie a été bloqué. Il a fallu 48 heures avant que finalement des excuses civiles soient mises en avant. Mais si vous voulez, c'est pour vous dire à quel point ce sentiment d'impunité, surtout conditionné par le soutien systématique des pays occidentaux, à États-Unis en fait, l'État sioniste est en roue libre, ne se préoccupe absolument pas de la perception, quelle qu'elle puisse être, de ces excès de Gaza.
Merci beaucoup, Maître Doblet. Monsieur Vernochet, alors en tant qu'un journaliste, un écrivain, un journaliste bien expérimenté, alors pourquoi, d'après vous, la gestion de cette aide humanitaire à Gaza trahit l'impuissance des Occidentaux? Alors pourquoi tant d'excès?
Elle trahit l'impuissance est totale, même du côté des États-Unis, qui cependant, pourtant, pourrait cesser les fournitures d'armes, de munitions, de missiles à Israël. Alors, Monsieur Biden tempête. Remarquons qu'il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu des incidents assez graves également sur la bande de Gaza, Monsieur Biden avait mis son holà et Israël avait obtempéré. Mais là, ce n'est plus le cas. Comme vient de dire Arnaud Develay, Israël est en roue libre, c'est-à-dire qu'ils sont sur leur lancée et ils ignorent absolument. Washington n'a plus rien à dire. Alors, les Occidentaux, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire, mais les Occidentaux sont à la remorque de Washington. Seul Washington, qui a mis non pas son veto, mais qui s'est abstenu dans un vote du Conseil de sécurité, on pourrait aujourd'hui arrêter cette machine folle qui est devenue l'État israélien, le gouvernement israélien dans ses composantes les plus extrêmes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a l'amorce, en tout cas il y a des comportements, comme l'a bien souligné et défini la Cour de justice internationale qui s'est réunie à Pretoria, il y a bien des comportements qui sont de type ou d'ordre génocidaire. Alors, je donnerai un dernier exemple, c'est la prise à nouveau de l'hôpital Al-Shifa par les forces israéliennes qui avaient déjà occupé cet hôpital, soi-disant bastion du Hamas, et qui a détruit l'ensemble hospitalier de fond en comble. Il reste, si vous avez vu les photographies, il ne reste que des ruines. Et on a sorti des décombres, 300 morts. Alors, impossible de faire le décompte entre ceux des combattants, résistants, terroristes, appelez-les comme vous voudrez, du Hamas, et les civils, 300 morts. Mais cela aussi, et je termine ici, cela signe aussi l'échec même de l'opération israélienne dans son ensemble. Nous en sommes au sixième mois et il faut reprendre et détruire l'hôpital Al-Shifa qui censément avait déjà été nettoyé pour des résultats qui sont tout sauf probants. Je soulignerai aussi le fait qu'aujourd'hui on parle, sauf dans les rues de Tel Aviv, on parle de moins en moins des otages.
Merci. Arnaud Doblet, alors, en tant que juriste, il s'agit bien d'un crime de guerre après celui perpétré à l'hôpital Al-Shifa.
Oui, absolument, c'est un crime de guerre comme on vit une succession depuis 6 mois maintenant, mais je dirais même depuis 75 ans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste une intensification d'un processus qui démarre en 48. Ilan Pape a parfaitement traité le sujet dans ses ouvrages. Et c'est juste que cette fois-ci, c'est une, j'allais dire, une cette conjonction d'événements qui portent sur un cabinet israélien composé d'éléments particulièrement radicaux, avec toujours, si je puis dire, c'est presque une cristallisation d'un processus qui a commencé il y a, disons, une dizaine d'années, qui s'était amorcé après l'assassinat de Rabin, mais qui vraiment l'a atteint, c'est-à-dire le bout du bout du bout, avec des messianistes, hein, littéralement, hein, des révisionnistes à la Jabotinsky. Donc là, on a le cocktail parfait avec un chef de l'exécutif qui est bringué en des histoires de corruption. Je crois qu'il y a pas moins de 3 dossiers le concernant et qui, visiblement, n'a pas l'intention de se plier à la justice. D'ailleurs, il a même essayé de changer les institutions. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il y a eu des mouvements de foule, des manifestations à son encontre depuis déjà plusieurs mois, parce qu'il essayait justement de mettre sous son contrôle le pouvoir judiciaire. Et partant de là, il s'est retrouvé un peu dans une situation qui n'était pas viable à court moyen terme. Ça nous amène à nous poser des questions sur la circonstance. Alors effectivement, l'opération Tempête Al-Aqsa était une opération rondement menée, mais il y a quand même des grosses zones d'ombre concernant effectivement la manipulation du régime sioniste pour justement passer à la vitesse supérieure et rentrer dans une surenchère dont on commence à peine à concevoir l'ampleur. Et maintenant, on est en train de réaliser petit à petit que, comme l'a souligné Jean-Michel Vernochet, comme militairement c'est un échec après 6 mois, l'armée israélienne tourne en rond à Gaza à la recherche d'objectifs militaires dont on a du mal à imaginer leur nature. Et partant de là, il semblerait maintenant que la décision à Tel Aviv ait été adoptée d'élargir le conflit, avec bien sûr tous les points d'interrogation que cela engendre.
Bien dit. Monsieur Vernochet, alors, cette ONG alimentaire a demandé l'ouverture d'une commission d'enquête indépendante. Pourquoi c'est important l'ouverture, la création d'une commission d'enquête indépendante et celle annoncée par Israël, alors, suscite des interrogations et n'est pas fiable?
Alors, évidemment, ce sont des parlottes, ce sont des intentions purement verbales, ça ne veut rien dire. Avez-vous vu une commission d'enquête de ce type aboutir? Elles s'enlisent, si je prends l'exemple de Boutcha en Ukraine, le fameux massacre si bien mis en scène, il y a eu des enquêtes, on a envoyé des experts médicaux internationaux, mais on n'a jamais eu le résultat de l'enquête, et le résultat, vous pouvez bien l'imaginer, comme dans tout ce type de situation, c'est le fleuve ou la rivière qui vient mourir dans les sables du désert. Alors je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Arnaud Devlet, qui me semble important. Aujourd'hui, effectivement, il semble que la décision a été prise, avant ce n'était qu'une option, d'élargir, avec tous les risques que cela comporte, mais aussi tous les avantages au regard de la politique qu'entend mener l'équipe gouvernementale radicale et même fanatique qui est aujourd'hui à la tête d'Israël. C'est l'élargissement au nord d'Israël, au sud Liban et au-delà, puisque on a eu cette frappe il y a quelques jours qui a fait quand même plus de 13 morts à Damas sur le consulat iranien. C'est quand même une zone d'extraterritorialité avec une protection diplomatique et qui a permis à Israël d'éliminer le général Zaidi, qui, si je ne me trompe, qui était le numéro 3 ou 4 des gardiens de la Révolution. Mais c'est un acte extrêmement grave qui rappelle peut-être le bombardement de l'ambassade de Chine, de la République populaire de Chine, par les Américains en 1999 à Belgrade lors de la guerre du Kosovo, puisque c'est une guerre qui a été strictement et totalement aérienne. Il n'y a pas eu de troupes au sol. c'est un précédent aussi, c'est quelque chose qui montre que nous sommes un cran au-dessus dans l'escalade, et je me borne de citer, il y a eu aussi des bombardements à Alep qui ont fait un certain nombre de dommages collatéraux, comme on peut dire, qui montrent qu'il y a une volonté d'allumer la mèche et d'essayer d'embraser, d'engager, de croiser le fer avec le Hezbollah. Aujourd'hui, Israël, je m'arrête ici, cherche un prétexte et provoque, grâce au ciel, le gouvernement iranien est d'une grande sagesse et d'une grande patience, et espérons qu'il persistera dans cette attitude.
Merci beaucoup. Arnaud Daublé, alors la présidente de Save the Children US a annoncé, a alerté en fait, en outre, que 350 000 enfants moins de 5 ans risquent de mourir de faim dans une famine provoquée par l'homme. Est-ce que vous voyez un lien entre cet incident, le drame et cette guerre de faim?
Oui, ben le lien, c'est effectivement au cœur de la définition même du crime de génocide, à savoir créer les conditions portant sur l'atteinte grave à la santé, à l'intégrité corporelle de toute une population. C'est un des critères, des 5 critères retenus, en tout cas considérés par le rapport albanais. Et j'ajouterais que on n'est pas vraiment en territoire nouveau, puisque rappelons-nous des déclarations de l'ex-secrétaire d'État américaine Madeleine Albright en 1996. Là, il s'agissait des 500 000 enfants irakiens qui étaient plus ou moins en danger de mort causée par les sanctions des États-Unis imposées sur ce pays à l'époque. Et elle avait benoîtement répondu que cela en valait la peine, je cite. Donc on a affaire à des...
Elle avait dit que c'était le prix à payer.
Le prix à payer, voilà. Donc, que puis-je dire, enfin, c'est rien de nouveau. On est vraiment en présence de gens qui pratiquent la politique avec un cynisme absolu. Et on peut même dire que certaines vies valent plus d'autres. Quand on voit quelque part aussi le traitement médiatique accordé aux 7 travailleurs humanitaires, et cela dans un océan de sang, avec maintenant près de 35 000 morts, les 65 000 blessés, plus tous les autres qui résident encore sous les décombres, c'est presque quelque part ubuesque de voir que 7 Européens comptent plus que près de 100 000 Palestiniens, quoi. Donc, mais malheureusement, c'est la situation à laquelle on est confronté, avec des gens qui sont complètement déshumanisés dans leur façon de gérer les affaires d'un pays et dans le cadre de leurs attributions
bureaucratiques. Merci beaucoup. Une minute encore devant nous. Monsieur Vernochet, vous voulez ajouter quelque chose ou conclure ?
Oui, nous sommes dans une spirale infernale. Satan mène le bal, et puisque l'Europe est quand même plus ou moins au bord de la guerre à travers l'OTAN avec la Fédération de Russie, que les hommes comme M. Macron n'auraient pas hésité à engager l'arme nucléaire dont nous sommes, nous, Français, détenteurs, on voit bien que le monde est en train de naufrager. C'est la planète titanique. Il faudrait d'urgence, je ne sais pas si on peut parler de miracle, mais qu'il y a un renversement de la tendance. Et ça, je l'appelle de tous mes voeux. Voilà.
Merci Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste. Merci à vous également Arnaud Daublé, analyste politique et juriste international. Et merci à vous amis et auditeurs. Merci de votre fidélité. À bientôt. À la prochaine.
Afrique économique.
Mesdames et messieurs, chers auditeurs et auditrices, merci de nous rejoindre sur une nouvelle édition de l'Afrique économie. depuis la capitale iranienne, Téhéran. Nous allons passer en revue l'actualité économique africaine. Restez avec nous. La Guinée durcit le ton sur l'usage illégal de Starlink en rappelant les sanctions pénales associées. L'accès à Internet et aux réseaux sociaux a été restreint du 23 novembre 2023. Au 22 février 2024, en Guinée où l'on dénombre environ 7 millions d'internautes. Ces derniers cherchent actuellement des alternatives plus fiables. L'autorité de régulation des postes et des télécommunications de Guinée durcit le ton à l'encontre des utilisateurs illégaux du service Internet par satellite Starlink. Sur le territoire national, dans une nouvelle mise en garde, le régulateur télécom a tenu à rappeler aux contrevenants les sanctions pénales associées selon la loi du 13 août 2015 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. Dans un communiqué daté du 3 avril, la RTP indique qu'il est puni d'une peine d'emprisonnement allant d'un an à 5 ans et d'une amende de 100 millions à 1 milliard de francs guinéens. Toute personne qui installe ou exploite un réseau indépendant de télécommunications TIC sans autorisation. Le Bénin et le Ghana veulent mettre en œuvre le free roaming pour réduire le coût des communications. Les pays de la CEDEAO multiplient les accords pour la mise en œuvre du roaming communautaire. Cette initiative vise à réduire les coûts des communications électroniques dans la sous-région. Le Bénin et le Ghana se sont engagés à mettre en œuvre le free roaming pour réduire les coûts des communications pour les ressortissants de l'un des deux pays en voyage. Sur le territoire de l'autre, un protocole d'accord a été signé la semaine dernière à Cotonou par l'autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste du Bénin et l'autorité nationale des communications du Ghana. Les deux parties ont convenu de l'entrée en vigueur de ce protocole d'accord le 1er juillet 2024. L'opérationnalisation de ce protocole d'accord se traduira par une baisse significative des tarifs appliqués aux consommateurs béninois et ghanéens en situation de roaming, a déclaré l'ARCEP dans un communiqué publié le dimanche 31 mars. Garanco signe un accord de garantie de 27 millions de dollars avec Africa Green Co pour l'énergie durable en Afrique australe. Ce mécanisme devrait permettre d'investir dans des producteurs indépendants d'énergie pour renforcer l'offre en énergie renouvelable dans la sous-région, plus précisément en Afrique du Sud. Garanco, qui mobilise le secteur privé pour des investissements dans des projets d'infrastructure en Afrique, a signé ce jeudi 4 avril 2024 avec Africa Green Co un mécanisme de partage de risques d'un montant de 27 millions de dollars. L'accord de garantie devrait permettre d'investir jusqu'à 270 millions de dollars provenant du secteur privé dans des producteurs indépendants d'énergie qui, à leur tour, vendront l'énergie produite à des acheteurs privés, entreprises et particuliers sur des marchés d'Afrique australe, notamment en Afrique du Sud. Report inédié des élections législatives et régionales au Togo. Alors que la campagne en vue de double scrutin législatif et régional était prévue pour démarrer sur tout le territoire ce jeudi 4 avril, elle a été reportée in extremis Ce mercredi, conséquence immédiate du léger report des élections à l'issue d'une audience accordée au bureau de l'Assemblée nationale par le président togolais Faure Gnassingbé. Au Togo, les prochaines élections double scrutin décidées pour les législatives et régionales n'auront plus lieu. Le 20 avril, comme initialement prévu, elles vont connaître un léger report. Selon le gouvernement procédera à un léger réaménagement du calendrier des élections législatives et régionales initialement prévues le 20 avril 2024, indique-t-on à la suite d'une rencontre entre le chef de l'État togolais Faure Gnassingbé et le bureau de l'Assemblée nationale. L'Afrique du Sud veut connecter 5,5 millions de foyers à Internet dans les zones rurales et les townships en 4 ans. En Afrique du Sud, le gouvernement multiplie les initiatives pour accélérer l'adoption de l'Internet à haut débit dans le cadre de ses ambitions de transformation numérique. En 2023, seuls 10% des ménages sud-africains avaient accès à Internet à la maison. Le gouvernement sud-africain envisage de connecter 5,5 millions de foyers, des zones rurales et des townships à Internet via des points d'accès Wi-Fi au cours des 3 ou 4 prochaines années. L'initiative a été révélée par Mondli Gungubele, ministre des Communications et des Technologies numériques, lors d'une conférence de presse à Pretoria le jeudi 4 avril. Nous sommes déterminés à réduire la fracture numérique en fournissant un accès Wi-Fi aux communautés et en garantissant un accès universel à Internet, a déclaré le ministre. Bank of Kigali renonce à ouvrir un bureau de représentation au Kenya. Fin 2018, ce désistement avait déjà été évoqué par le top management de la banque publique rwandaise. L'établissement coté sur la bourse du Rwanda annonce ce renoncement. Bank of Kigali n'ouvrira plus un bureau de représentation au Kenya. L'annonce a été faite ce vendredi 5 avril 2024 par la Banque centrale du Kenya. Selon le régulateur, cette décision est volontaire et traduit l'ambition de la banque commerciale rwandaise de se concentrer davantage sur les canaux de prestation de services numériques. Par cette décision, la BOK renonce également à son autorisation d'exploiter un bureau de représentation au Kenya. Cette autorisation lui avait été accordée par la Banque centrale kenyane le 12 février 2013.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.